Et Claude, on parle de mode ce matin.
Et on parle dans Le Parisien du costume qui s'en va, que les Anglais inventèrent au 19e siècle et qui traversa la Manche, pantalon, veste et gilet et la cravate. Mais tout ceci prend fin au temps du confort relâché quand les codes du télétravail s'imposent. Puisque je peux travailler chez moi, alors je peux au travail être vêtu comme à la maison. Bref, les ventes de costumes ont diminué de 60% en France en moins de 10 ans. On vendra cette année 1 360 000 costumes en France contre 3 millions en 2011. Résiste l'assurance, l'hôtellerie, la finance et la politique où le costume dit encore le pouvoir. Oui, mais pas partout. Aux États-Unis, une élue fait de la mode une arme. Alexandria Ocasio-Cortez, congresswoman démocrate trentenaire très à gauche, prouve par l'habit son adéquation à ceux qu'elle représente. Elle avait posté sur les réseaux sociaux une photo de ses premières chaussures de campagne, aux semelles trouées d'avoir trop arpenté, des chaussures de sport de la marque End of the Stories, prisées de sa génération. Elle se fait les ongles dans le train, son vernis s'achète pour 8$ dans les magasins, elle porte le rouge à lèvres très rouge et elle est la fierté des filles latino du Bronx. Bref encore, AOC, aux 4 millions de followers sur Instagram, est une influenceuse de mode. C'est ce que m'explique un journal non seulement intelligent, mais peut-être le journal le plus chic du monde. Il s'appelle How to Spend It. Comment le dépenser? Comprenez votre argent. C'est le cahier du vendredi pour les vraiment riches lecteurs du Financial Times, mais il est bon plan en accès libre sur le web. Vous y verrez aussi de très beaux jeunes gens dans des photos romantiques qui portent des pulls en laine dans un hommage au tricot. Pas celui de chez vous, non. Le tricot des grands créateurs. Un cachemire Dior et Raymond Petitbon aux vagues bleues et blanches à 7800 livres. Un autre des mêmes auteurs, psychédélique, où sous des natures mortes vogue un poisson rouge tricoté à 8300 livres. En gros, 10 000 euros. Ce n'est pas rien, la mode. Je lis dans Le Figaro que de malins créateurs ont conçu des vêtements qui, par des jeux de tissus de fermeture éclair, peuvent être aussi bien portés, mesdames, qu'on fasse un petit 34 ou du 50. Et dans Le Figaro encore qu'au musée des arts décoratifs se tient une exposition consacrée aux chaussures, reflet de nos coutumes et de nos érotismes. Savez-vous qu'au XVIIIe siècle, nos jeunes dames nobles se bandaient le pied pour qu'il fût plus fin? La mode, mes amis. Les midis, me dit West France, dans une cantine populaire près de Beuvron en Auge, le soir parfois à la crêperie Colombe Auge, un vieux monsieur vient dîner qui est une icône gay et un immense artiste. Vous le reconnaîtrez par ses lunettes jaunes, sa cravate rouge, sa casquette blanche et surtout son gilet vert. David Hockney, le peintre le plus cher du monde, est venu vivre chez nous réaliser son œuvre ultime près de la tapisserie de Bayeux. Il raffole du boudin noir et pour dessert prend une île flottante. À table, il fume le cigare dont les volutes, j'imagine, imprègne son gilet.
On parle d'emprise également, Claude, dans le journal.
L'emprise du pouvoir chinois qui, à chaque nouvel article, apparaît plus implacable. Le Monde raconte ce matin comment la Chine exerce sa censure jusque dans nos démocraties avec la complicité d'entreprises occidentales. C'est un éditeur américain de jeux vidéo qui suspend un de ses joueurs vedettes qui a osé soutenir les manifestations de Hong Kong. C'est un entretien avec un opposant chinois qui est interrompu sur la radio Voice of America, qui était sous le communisme soviétique un média de liberté pour l'Est de l'Europe. C'est un univers australien dont la maison d'édition n'a plus voulu d'un livre sur l'influence chinoise. Ce sont les studios Pixar, propriété de Disney, qui dans leur dernier opus abominable, ont montré une carte qui faisait apparaître comme chinoise des îles à la souveraineté contestée. Bref encore, la Chine fait porter le poids de la censure et de sa puissance sur le secteur privé et Mark Zuckerberg de Facebook dénonce le danger chinois. Le voilà notre paladin. Il est des terreurs planétaires, d'autres sont locales. Nos journaux racontent comment dans des cités, des voyous, des mafias, des dealers font régner peur et censure. À Toulouse, me dit la dépêche, une femme a dû fuir son immeuble de la cité Madrid aux 7 deniers. À Nantes, grande enquête de West France, des bandes vendent du cannabis qui n'a jamais été aussi addictif et annexent les parties communes des immeubles. Un gars cagoulé armé d'un fusil a dormi pendant une semaine dans ma cage d'escalier sur un fauteuil, raconte une habitante d'un HLM. À Nice, où on l'a vu, SOS Médecin ne veut plus venir, cité des Moulins, où une jeune doctoresse a été agressée vendredi. Un quartier se voit mourir, me dit Nice Matin. Une association d'aide aux devoirs, se propose pour escorter les toubibs.
Et la mémoire, Claude, pour finir.
La mémoire qui désormais habite ces lycéens de Saint-Capré à Agen, me dit le Petit Bleu, qui vont participer aux cérémonies du 11 novembre à Paris et qui ont, aux Invalides, rencontré, ils ne les oublieront pas, des soldats blessés. La mémoire de nos héros récents et des morts de la Grande Guerre dont la beauté me revient. Le journal du Centre me raconte et surtout me montre Jean-Claude Parlier, fier moustachu, couteau à la ceinture et toque blanche, qui était avant-guerre cuistot à Paris et qui en 1915 posait toujours aussi beau parmi d'autres moustachus cuisiniers sur le front. Il mourut cette année-là de la maladie du charbon que lui avaient transmise les chevaux. Il y en avait beaucoup à la guerre. La même année 1915 mourait le soldat Philippe Martin de Saint-Gix dans l'Ain, dont le Dauphiné libéré publie quelques lettres à sa mère. 14 avril. Hier, on s'est engueulé avec les Boches. D'une tranchée à l'autre, on se parle tout le temps. On leur demande s'ils veulent aller à Paris. Ils répondent qu'ils y seront bientôt. On leur offre du pain. Il était agriculteur, Philippe Martin. L'Écho républicain me raconte que notre armée, comme notre nation, était celle des paysans quand les Allemands avaient des soldats ouvriers. Au Narbief, j'en termine. On ne fêtera pas les morts, mais un miracle. Ce village du Haut-Doubs n'a pas connu la mort, me dit l'Est républicain. Ses 17 enfants partis en 14 sont tous revenus. Une femme du village, dit la légende locale, priait pour eux à la chapelle du Biseau. On peut juste regretter qu'elle n'ait pas prié pour tous les soldats de France.
Merci Claude pour la revue de presse.